matin,
9h-11h,
Wendy Bouchard. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1. On est donc ensemble pendant 2 heures pour faire le tour de la question. Voterez-vous le 26 mai et sur quelle motivation? Êtes-vous encore attaché au parti traditionnel et pourquoi d'ailleurs? Est-ce que vous faites plutôt le choix de la femme ou de l'homme davantage que l'étiquette? Et savez-vous pour qui et pour quel parti vous irez voter? On vous a posé la question sur Facebook et on vous donnera d'ailleurs dans quelques secondes le résultat de cette consultation. Bonjour ma chère Julie.
Bonjour Wendy.
On vous rappelle d'ailleurs que tous vos témoignages sont à l'avenant et le standard est ouvert d'ores et déjà.
39,21, 50 centimes la minute.
Avec nos invités, on étudie et on commente les derniers sondages avec tous vos témoignages recensés sur ces européennes. Et puis à 10h, je reçois une grande navigatrice, la première à avoir accompli un tour du monde à la voile en solitaire. Elle qui voue depuis toujours sa vie à la défense de la nature et à l'environnement. Elle travaille non seulement sur les constats, mais surtout sur les solutions pour sauver cette planète. Isabelle Autissier préside l'association WWF en France et publie un nouveau roman oublié, Clara. On échange avec elle, c'est le sommaire jusqu'à 11h ce matin.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et avec nos invités, Bruno Jeudy, rédacteur en chef et chef du service politique à Paris Match. Bonjour Bruno.
Bonjour Wendy.
Bernard Sananès est avec nous également, politologue, président de l'Institut de sondage ELAB. Bonjour Bernard Sananès.
Bonjour Wendy.
Du 23 au 26 mai prochain, les électeurs des 27 États membres de l'Union européenne, ou des 28 si le Royaume-Uni se décide à participer à cette élection malgré le Brexit, pourront donc aller voter pour élire leurs représentants au Parlement européen. Et pour les Français, ce sera donc le dimanche 26 mai. Avec le redoutable parti de l'abstention d'abord, est-ce qu'on se rapproche du scrutin? Plus on se rapproche du scrutin, plus les intentions de vote sont manifestes et se dessinent quand même, Bernard, ou ça bouge pas beaucoup depuis quelques semaines?
Non, jusqu'à présent, ce qui était assez étonnant, effectivement, jusqu'à cette semaine, moi je pense qu'on est en train d'entrer en campagne, doucement, mais c'est effectivement qu'il n'y avait pas beaucoup d'augmentation de la participation, ni même de l'intérêt pour cette campagne. On est, quand on regarde toutes les enquêtes, à peu près bloqué à 60% de Français qui disent qu'ils n'iront pas voter, 40% qui disent qu'ils iront voter. Ce serait encore moins que le chiffre de 2014, qui était de 42,43% de participation. Et donc c'est vrai, ce qui est assez rare, c'est qu'en général, dans les semaines qui précèdent une élection, qui précèdent l'ouverture de la campagne, ce chiffre commence à monter. Là, ce n'est pas le cas. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. On va sans doute y venir, mais c'est le premier indicateur. Et le deuxième indicateur, c'est la volatilité, c'est-à-dire que la certitude du choix, également, des électeurs qui nous disent « Voilà, je sais pour qui je vais aller voter et je suis sûr, je ne changerai pas d'avis. » Ils sont 60%. Il y en a encore 40% parmi ceux qui disent qu'ils vont aller voter, qui disent pouvoir changer d'avis. C'est un chiffre très important. Ce qui veut dire aussi, et je tiens à le répéter, qu'il faut prendre les sondages avec prudence pour ces deux raisons-là. La troisième étant les 33 listes, qui est un record que nous n'avions jamais connu jusqu'à présent.
Oh oui, on peut revenir sur cette offre pléthorique. Les Français ne pourront pas dire on n'a pas l'embarras du choix. Là, pour le coup, c'est même peut-être trop, à vous d'en juger, Bruno Jeudy, mais 33 listes, c'est du jamais vu pour une élection du genre.
Oui, c'est évidemment un record. Alors, il y a plusieurs explications à ça. D'abord, il y a le retour aux listes nationales qui fait que le scrutin change. Alors, on votera toujours à un seul tour. Il y aura un seul tour le 26 mai. Mais c'est plus...
On votait par grande circonscription régionale.
La circonscription n'est plus régionale comme avant. Donc, ce qui faisait que, par exemple, la fois dernière, en 2014, il y avait en moyenne 24 listes par grande région.
Oui.
Cette fois-ci, c'est une circonscription nationale. C'est-à-dire qu'on soit en Nouvelle-Calédonie ou à Paris, on vote pour les mêmes listes. Elles sont 33. Et donc, c'est un record. C'est une volonté d'Emmanuel Macron qui a voulu revenir aux circonscriptions nationales, ce qui était le cas à l'origine en 1979, quand on vote pour la première fois, on vote pour une circonscription nationale.
Ce qui est le cas dans les pays d'Europe, les autres ?
Ça dépend des pays. Il y a des pays qui votent par grande région et des pays
qui
votent...
La Belgique, l'Irlande et l'Italie qui ont gardé un scrutin régional.
Oui, voilà. C'était peut-être pour faciliter la lecture du scrutin, justement.
Ça a été la volonté à l'époque de Michel Barnier, de Jean-Pierre Raffarin, qui ont inventé ces grandes circonscriptions régionales, essayer de rapprocher le député européen du terrain, d'une région, de le rattacher à une région. On votait pour un député d'Auvergne et Centre, un député pour pour Bretagne, Pays de Loire et Poitou-Charentes, par exemple. Bon, voilà, ça n'a pas tellement fonctionné. Alors certains disent, regrettent, il y a des députés européens sortants qui disent que ça fonctionnait bien. Bon, c'est difficile à dire. En tous les cas, Emmanuel Macron a voulu, lui, un scrutin national et il en a d'ailleurs fait, il en faisait d'ailleurs un peu un test lui-même. Hein. Il voulait que cette élection européenne, qui est la première élection post-présidentielle, soit un grand rendez-vous électoral pour les Français, parce que c'est vrai que ce président s'est fait élire sur un programme très européen, ce qui était une nouveauté et même une surprise à une époque où il y a un peu une défiance des Français vis-à-vis d'institutions européennes. Maintenant, on y est, c'est un scrutin national, il y aura 33 listes, comme vous dites, c'est vrai que les Français n'ont pas beaucoup d'excuses. Franchement, dans les 33 listes, il y a à peu près tout ce qu'on peut imaginer comme offre politique, depuis la défense des animaux jusqu'au parti d'Emmanuel Macron, en passant par le parti pirate.
Enfin, la liste des moins de 30 ans,
il y a trois listes jaune, il y a la liste Allons Enfants qui est une liste de jeunes, il y a tout.
Avec évidemment le choix du vote utile ou pas. On parlait justement de l'Europe des animaux hier avec ce parti animaliste que les adhérents essaient de mettre en lumière mais qui est crédité de 0,5%, peut-être 1% au tout maximum. La loi française, c'est 5% des suffrages exprimés pour envoyer un député au Parlement européen. Donc il y a aussi ce coup près.
5% pour être à Bruxelles, voilà. À Strasbourg, pardon.
3% pour
3%
être remboursé.
3% pour être remboursé de ces frais de campagne. Avec une vraie interrogation, là, cette multiplicité.
Il y a 79 eurodéputés, on élit 79 eurodéputés, avec une petite incertitude, c'est qu'en fait, comme les Anglais, on ne sait pas s'ils sont encore dedans.
C'est 74 ou 79.
C'est 74 ou 79.
Oui. Voilà. Non, ce que l'on ne mesure pas pour l'instant, et on va le mesurer dans les prochains jours, c'est si cette offre pléthorique entraîne un affaiblissement
des grands.
Les grands et des moyens, voilà. C'est-à-dire que les petites listes mises bout à bout, même si elles font chacune 0,3, 0,5, 0,2, peut-être certaines passeront la barre des 1 ou des 1,5, puis il peut y avoir des surprises.
Et puis on peut reprocher aux gens d'aller voter,
voilà.
Hein, pour qu'ils
veulent. Donc, est-ce que ça va fragmenter, est-ce que ça va affaiblir les grandes listes, auquel cas, par exemple, est-ce que la liste Rassemblement National et la liste La République En Marche, qui étaient en tête jusqu'à présent et qui étaient plutôt au début de campagne, autour de 22, 23, 24, va plutôt se rapprocher des 20%, ce qui voudrait dire que vraiment, on serait dans une offre extrêmement, extrêmement fragmentée, ou au contraire, est-ce que face à cette offre pléthorique, l'électeur finalement va être un peu perdu et va se dire, bon, bien, je vote pour des gens que je connais, pour des offres politiques plus claires, plus habituelles, auquel cas, cela pourrait renforcer cette polarisation avec cette question du match à deux qu'essaie d'installer à la fois le Rassemblement National et La République.
Alors, on a un tout petit début de réponse avec le rolling IFOP, ce qui est un sondage quotidien, puisqu'hier, pour la première fois, les 33 listes ont été soumises à la question. Il y en a 14 qui ne dépassent pas les 0,5, c'est-à-dire en termes de sondage, parle en présence de l'ANA, on dit ils sont entre 0 et 0,5. 14 des 33 listes. Pour l'instant, ça semble influer assez peu, sauf peut-être sur la liste écolo qui hier a un peu perdu, parce qu'il faut dire que l'offre écolo est assez importante quand on regarde les petites listes, notamment il y a une liste qui s'appelle le MEI, qui est un parti qui se présente traditionnellement dans ces élections, et qui fait pas loin des 1%, ce qui fait que ça a un peu affaibli la liste écolo, mais il faut attendre 2-3 mesures pour stabiliser tout ça. Mais pour l'instant, ça ne semble pas tellement entamer le capital des grandes listes, entre guillemets.
Et redisons-le, vous l'avez souligné, Bruno, je dis que c'est un scrutin à un tour.
Hein. Un tour.
Un tour. On va revenir sur la volatilité des électeurs. 60% d'indécis encore aujourd'hui, à 3 semaines des élections. Est-ce votre cas? N'hésitez pas à témoigner au Standard Europe 1. Et puis, ces têtes de liste, on en parle de plus en plus. Vous les voyez dans les émissions, vous les entendez à la radio. Est-ce qu'ils vous convainquent qu'on va essayer de dérouler un petit peu les programmes qui tous ne sont pas encore exposés au public. Il serait temps peut-être maintenant. On fait le tour du sujet sur ces européennes jusqu'à 10h avec vous Julie.
On fait effectivement le tour de la question avec laposte.fr/pro. Démarquez-vous en imprimant vos timbres avec le logo de votre entreprise.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Parlons du vote des européennes. Est-ce que vous savez, vous, pour qui vous allez voter 39-21 ?
Avec encore beaucoup d'incertitudes, mais finalement, de l'intérêt pour cette élection. Pour preuve, la consultation que nous avons lancée sur Facebook avec 15 000 votes en quelques heures, Julie.
C'est énorme, hein, 15 200 votes exactement. Savez-vous pour qui vous allez voter ? Ben oui, à 64%, c'est à peu près
ça,
les 40% d'indécis qui restent,
ouais, c'est ça.
Ce dont on parlait. Petit témoignage, oui, pour personne, aucune crédibilité. Nous nous dit Jacques.
Voter pour personne.
Oui, bon. Oui, je vais aller voter, nous dit Valérie, mais non, je ne sais pas encore pour qui. Boubou, votez pour qui vous voulez, mais votez, sinon ne venez pas pleurer après. Et Julien, oui, c'est un référendum pour ou contre La République En Marche. Personnellement, ce sera contre, dit-il.
Ah, alors ça c'est intéressant, Bernard Sananès et Bruno Jeudy, vous qui nous aidez à y voir plus clair aussi dans ces élections. Référendum pour ou contre Emmanuel Macron, ça traduit en tout cas ce que vous disiez l'un et l'autre tout à l'heure, c'est la première élection intermédiaire pour Emmanuel Macron. Il joue quand même assez lourd dans cette histoire.
Oui, d'abord parce que Bruno l'a rappelé, il s'est engagé sur l'Europe, il s'est engagé dans une France qui est à la fois eurosceptique et eurocritique. Mmh. Il a fait vraiment campagne en 2017 en faisant de l'Europe son étendard. Oui. Et puis, il faut le rappeler aussi, il emporte nettement le débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle sur la question européenne. C'est ça qui fait, la bascule était déjà faite, mais en tout cas qui donne l'ampleur de sa victoire. Alors, qu'est-ce qu'on observe dans les dernières enquêtes ? On observe que les sujets nationaux comme motivation du vote apparaissent plus élevés. On a 4 électeurs sur 10 qui nous disent qu'ils veulent aller voter pour des raisons nationales. Mmh. Et parmi ces électeurs, évidemment, une forte majorité, alors ça c'est plus traditionnel, pour dire non, pour s'opposer à l'exécutif. Ensuite, on a à peu près 30% de Français qui disent qu'ils vont aller voter sur la question européenne. Mais il faut voir aussi qu'il y a des sujets qui sont évidemment très poreux entre les questions nationales et les questions européennes. Et il y a 2 sujets qui, dans l'ordre des préoccupations des Français, on voit bien, sont à l'intersection de ces deux dimensions nationales et européennes. C'est le sujet écologiste, l'urgence écologique dont on a parlé encore hier. Et puis, ce sont les questions migratoires. On voit bien d'ailleurs que ces deux thèmes-là, pendant les dernières années, ont été des sujets nationaux, mais qu'ils ont permis aussi un peu la naissance d'une opinion publique européenne. Ce sont des sujets sur lesquels il y a eu des vrais débats en Europe, quasiment sur les mêmes termes et sur les mêmes questions. L'environnement et les questions migratoires.
Oui.
Et puis, dernier point, il y a 2 listes pour lesquelles les électeurs nous disent qu'ils veulent aller d'abord voter pour cette liste, parce qu'ils partagent les convictions de cette liste. C'est la liste LR et la liste Europe Écologie Les Verts.
Ah, c'est intéressant. Pour le reste, c'est un peu plus flottant, c'est ce que vous...
C'est-à-dire que les électeurs de La République En Marche veulent d'abord manifester leur soutien à l'Europe, oui, et à la majorité présidentielle. Les électeurs du Rassemblement National veulent dire 2 fois non. Non à l'Europe et non à Emmanuel Macron.
Et LR et Europe Écologie Les Verts sont plus des votes de soutien à des valeurs, Bruno Jeudy, parce qu'on a encore un peu de mal à s'y retrouver justement dans les programmes affichés ou pas d'ailleurs. Hein.
C'est 2 situations différentes, mais c'est vrai qu'il y a sans doute une mobilisation peut-être un peu supérieure à ce qu'espérait chacune des 2 listes compte tenu de leur situation politique. Pour les Républicains, il y a l'apparition d'une nouvelle personnalité qui s'appelle François-Xavier Bellamy, qui est pour l'instant la seule nouveauté et même un peu la coqueluche de cette campagne. Personnage totalement inconnu encore au mois de janvier, professeur de philosophie, que Laurent Wauquiez est allé pêcher comme ça dans un lycée parisien. Alors c'est un élu à Versailles. Et puis il y a quelque chose qui se passe autour de lui. Ces meetings marchent bien et ça remobilise un peu les Républicains.
3e force pour l'instant dans les
sondages. Ils sont partis très bas. Ils sont autour de 15%. Alors vous allez me dire que c'est pas non plus extraordinaire. François Fillon avec le vent dans le nez a fait 20 en 2017. Et l'UMP qui précédait les Républicains faisait à peu près 20. En 2014 derrière le Rassemblement National, mais le 15 de François-Xavier Bellamy qui peut encore progresser est plutôt une bonne performance compte tenu de la situation politique très compliquée des Républicains. Il y en a une partie qui viennent de quitter le parti il y a 1 an et demi, 2 ans et encore Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin il y a quelques semaines pour rejoindre Emmanuel Macron. Une partie de la base dont on sait qu'elle est un peu tentée par une alliance avec le Rassemblement National et un parti un peu recroquevillé, mais qui là, sur cette campagne, est un peu la surprise et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Hier soir encore à Marseille, il y avait beaucoup de monde. Et puis pour les écologistes, c'est toujours un petit peu leur élection
portée par Yannick Jadot,
qui est une tête de liste, qui est eurodéputé sortant, plutôt quelqu'un d'assez crédible sur la question,
oui,
et qui, traditionnellement, c'est l'élection des les écologistes qui ont souvent fait des bonnes performances, pas toujours, mais qui en ont fait parfois des bonnes. On se souvient de Daniel Cohn-Bendit en 2009, hein, qui dépasse la barre des 16%. Donc c'est une élection qui leur va bien. Et en plus, c'est, les écologistes, ils sont organisés au niveau européen. Il y a un groupe, c'est une force politique très organisée, très forte dans certains pays. Donc pour l'instant, ils sont plutôt en dessous de ce qu'ils peuvent espérer. Mais bon, on va voir si la campagne tourne un peu autour de ces thèmes-là, comme le disait Bernard.
Depuis hier, c'est intéressant. Hein, ouais.
C'est une élection souvent qui se joue dans la dernière semaine.
Oui.
Et c'est comme le surf un peu. Hein, vous voyez, vous montez sur la vague au bon moment et puis ça peut vous porter 2-3 points au-dessus de ce que les sondeurs vous prédisent. Donc il y a une grande volatilité. Et alors surtout, ce qui se passe, c'est que autant le Front National, vous avez plus de 85% des gens qui disent vouloir voter Front National et qui sont sûrs et certains de voter. Donc ils sont déjà mobilisés. Les écologistes, c'est extrêmement volatile. C'est-à-dire que ça, c'est, pour l'instant, c'est à peine 60% de gens qui sont certains de voter pour eux. Mais il y a un capital...
D'éclatement.
Disons, il y a une marge de progression assez importante.
Ah, oh, d'accord. Oui. Ça, c'est intéressant, parce que, pardon Bernard, ça n'annonce, parce que depuis une semaine, on parle notamment de ce grand sommet de l'ONU sur la biodiversité. Qu'hier, conférence de presse impromptue du président Macron dans la cour de l'Élysée avec tous les experts en arrière-plan pour montrer finalement que ces questions-là, il les embrassait aussi, même s'il n'y en a pas eu un mot dans sa conférence de presse la semaine passée. Ça veut dire qu'il sent bien aussi qu'il y a la concurrence du côté d'Europe Écologie Les Verts et qu'il peut récupérer ou pas des points dans cette affaire. Pardon de parler un peu de manière électoraliste.
Oui, mais... alors on peut en parler sur le fond.
Mais c'est on vrai va que, en parler sur le fond en deuxième
que,
partie.
C'est vrai qu'on a été surpris de voir que ce thème-là n'était pas, je ne dis pas au centre, mais en tout cas parmi les priorités de la conférence de presse de restitution du grand débat d'Emmanuel Macron. Mais sur un plan politique, alors je vais vous donner une petite clé des coulisses. Il y a des enquêtes qui sont des enquêtes non publiées où on demande aux électeurs quels sont le deuxième choix. Mmh. Le deuxième choix, c'est on leur dit bah, d'accord, pour qui voteriez-vous si c'était dimanche? Mais si vous aviez un deuxième vote, pour qui voteriez-vous? Et c'est comme ça que l'on mesure cette volatilité dont on parlait. Et on voit bien effectivement qu'il y a des listes pour lesquelles l'hypothèse, la perspective d'un deuxième choix est très faible. Les électeurs du Rassemblement National, parfois ils hésitent un peu pour une toute petite partie entre le Rassemblement National et Dupont-Aignan, entre le Rassemblement National et la droite, mais cette marge d'incertitude est limitée. Quand vous êtes un électeur de La République En Marche, vous êtes quand même relativement motivé pour aller voter pour Emmanuel Macron, mais par exemple si vous avez voté Emmanuel Macron plutôt au second tour, par exemple si vous êtes un électeur qui est plutôt venu de la gauche, vous hésitez parfois encore à aller revoter pour le Parti Socialiste ou pour Génération, mais surtout, ce deuxième choix existe pour la liste écologiste, parce qu'il y a un électorat plutôt jeune, plutôt diplômé, plutôt urbain, qui a rejoint Emmanuel Macron en se disant « oui, il va être actif sur les questions environnementales ». Et c'est vrai que notamment dans le début du quinquennat, avec l'arrivée de Nicolas Hulot, avec le « Make our planet great again », cet électorat s'est senti proche d'Emmanuel Macron, a pensé qu'il allait agir sur l'environnement. Et donc là, il y a de la volatilité, comme il y a une autre volatilité assez importante, et celle-là, elle est clé politiquement, c'est entre une partie des électeurs, notamment retraités, qui hésitent entre le vote La République En Marche et le vote LR.
Très bien, merci pour ces précisions. Maintenant, nous allons donner la parole juste après la pause à Anthony et Frédéric qui nous rejoignent au standard et qui ont envie de nous dire s'ils iront voter aux élections européennes et pourquoi. Vos réactions également sur Twitter. Et puis, nous évoquerons les différentes têtes de liste avec celle un petit peu compliquée aujourd'hui qui a du mal à tenir son rang, disons Nathalie Loiseau, avec une série de meetings pour La République En Marche. Est-ce que cela vous inquiète ou au contraire, est-ce que tout commence maintenant, comme le disait directeur de campagne. On fait le tour du sujet jusqu'à 10h. Julien, on vous attend.
Les élections européennes auront lieu le 26 mai et le véritable départ de la campagne est donné. On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard.
Avec cette question, savez-vous pour qui vous irez voter aux élections européennes? On commente tout cela et vos témoignages avec Bernard Sananès, politologue, président de l'Institut de sondage ELAB, avec Bruno Jeudy, rédacteur en chef et chef du service politique à Paris Match. Caroline, sur Twitter, nous dit « J'irai voter parce qu'au-delà d'un droit, j'estime que c'est un devoir. Je n'ai jamais loupé une élection, mais je fais partie des Français qui actuellement ne savent toujours pas quel bulletin mettre dans l'urne. Elle fait donc partie de ces 40% d'indécis. Idem, nous dit Sylvie, j'ai reçu ce jour ma carte d'électrice. J'irai voter à assurément, mais je ne sais toujours pas pour qui. Il y a des incertains, en effet. Ce n'est pas une majorité, mais 40%, c'est important. Et nous sommes avec Anthony, au 39-21. Bonjour Anthony.
Bonjour Wendy, bonjour Julie, bonjour à tous.
Et merci, bonjour. Merci beaucoup Anthony de prendre la parole pour à 3 semaines de ce scrutin. Maintenant, vous savez pour qui vous voterez, vous, le 26 mai prochain, Anthony?
Oui, alors bon, j'irai voter parce que c'est pour moi c'est important. Je vais voter pour En Marche, pas forcément par conviction, mais parce que c'est le parti qui a été élu au suffrage universel en France. Et je pense qu'il faut être dans la continuité et garder le même parti au niveau européen. Ce serait totalement contradictoire de mettre le Rassemblement national au niveau européen. Mais moi, si j'ai appelé, c'est parce que j'ai vu dans les journaux il y a quelques jours que l'entreprise Bayer Monsanto finançait la campagne d'Emmanuel Macron. Alors, comment peut-il nous promettre la sortie du glyphosate en 2021 alors que le fabricant du glyphosate finance sa campagne ? Ça paraît assez compliqué.
Oui.
Moi qui vis à la campagne, qui ai toujours vécu à la campagne, qui suis très concerné par l'écologie. Je me pose la question.
Alors,
donc,
je ne sais pas.
J'hésitais à voter pour des écologistes, mais bon, comme je pense qu'il faut asseoir le parti présidentiel.
Vous voulez voter pour la cohérence et une certaine harmonie dans la continuité. On entend bien votre discours. Vous avez aussi peut-être été rassuré par les propos hier d'Emmanuel Macron sur la biodiversité, considérant qu'il fallait conserver une maison habitable et donc agir, enfin, Anthony, sur ce sujet.
Oui, un petit peu. Enfin, après, ça reste des grands sommets, oui, avec les grandes semences, mais ce n'est pas très pratique au quotidien, disons.
Un petit mot, Bernard Sananès et Bruno Jeudy, sur la réaction d'Anthony, sur la continuité.
On voit bien que c'est un électeur qui, même s'il est plutôt sûr de son choix sur La République En Marche, il est quand même tenté par le vote écologiste, enfin par les questions environnementales, si j'ai bien compris ce que vient de dire Anthony. Donc, on voit bien que cette hésitation existe. Donc, c'est vrai que la séquence d'hier était importante, même si sur un plan de communication, elle était un peu brouillonne. C'est-à-dire qu'on n'avait pas l'impression qu'elle avait été inscrite dans un vrai plan de communication. Les annonces pour certaines avaient déjà été donnée il y a quelques semaines, quelques mois, disent les opposants. Mmh. Et donc, c'est un peu un problème, d'ailleurs, pour Emmanuel Macron, c'est que sa parole, aujourd'hui, on le voit bien, est affaiblie. Elle crée moins d'impact dans l'opinion. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière sur les annonces post-débat. Et donc, le levier d'entraînement d'Emmanuel Macron vis-à-vis, non pas de son électorat qui lui reste attaché, mais vis-à-vis de l'électorat qu'il avait rejoint, notamment au second tour, cette puissance d'entraînement reste très limitée.
Il faut dire aussi que Nathalie Loiseau, puisque j'en parlais avant la pause, je ne sais pas si elle fait perdre des points à La République En Marche, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle n'en fait pas gagner jusqu'à présent.
Elle n'en a pas fait gagner, ça c'est clair. Depuis qu'elle est entrée en campagne, la liste perd plutôt du terrain. Donc Nathalie Loiseau n'est pas une plus-value pour l'instant pour La République En Marche, sous réserve de la suite de la campagne. Et on voit que, comme souvent dans la majorité, tout procède un peu d'Emmanuel Macron. Mmh. On a vu Édouard Philippe s'y coller hier soir pour son premier meeting. Il va en faire 2 à 3 jusqu'au scrutin.
Donc on a une majorité à la rescousse, quoi.
Voilà, Emmanuel Macron va devoir probablement lui aussi s'employer et peut-être même participer à un meeting comme l'avait fait Nicolas Sarkozy en 2009. Il y a quand même urgence et on voit bien qu'hier soir, cette prise de parole improvisée... Mmh. Plutôt étonnante, 20 minutes dans la cour de l'Élysée répondant à des questions, c'est pas dans ses habitudes. On sent que entre l'urgence climatique et l'urgence électorale, il y avait sans doute un peu des deux, voire beaucoup d'urgence électorale.
Ouais, bonjour Jean-Luc et merci Anthony de votre appel. Bonjour Jean-Luc, vous qui êtes avec nous.
Oui, bonjour.
Cher Jean-Luc, vous êtes déterminé aussi pour le vote du 26 mai de votre côté ?
Oui, tout à fait. Moi, je reste sur mes fondamentaux, ma famille politique, c'est-à-dire je vais voter pour les Républicains. Pour plusieurs raisons. La première, d'abord, l'Europe, c'est vrai qu'on n'y comprend pas grand-chose, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne, personne ne lit les programmes, évidemment.
Il faudrait pourtant qu'on se stimule un peu.
On sent à peu près ce qui se passe. Et puis ensuite, c'est un vote également anti-Macron, c'est-à-dire que je pense que...
J'ai
encore un peu de mal à avaler l'élection de 2017. C'était un peu. Je n'oublie pas que Macron a été un acteur important du quinquennat lamentable précédent. Je crois qu'il était ministre de l'économie, voilà.
Oh, Jean-Luc, vous faites un édito assez engagé ce matin.
Clairement. Et puis, ce que je lui reproche aussi, c'est que. Il avait en 2017 une légitimité extrêmement faible, 24% au premier tour, 18% des inscrits, dont la moitié devait voter Fillon.
Oui, il n'a pas volé l'élection.
Ça fait que, avec ça, normalement, un type aussi intelligent et brillant que lui devait arriver très, très humble, presque en s'excusant. On a vu ce que ça donnait, donc ma foi...
Ouais. Vous ne changerez pas vos valeurs. Voilà. En tout cas, vous irez voter, Jean-Luc. Voter, c'est un droit, c'est un
Absolument.
Devoir aussi, et vous en témoignez. Merci, Jean-Luc. Bertrand est avec nous au standard. Bonjour, Bertrand.
Oui, bonjour. Oui, oui, je voulais interpeller les journalistes, et notamment Monsieur Jeudy, que j'apprécie beaucoup, et en qui je vais passer un message, et j'ai confiance en lui pour le faire passer auprès de ses confrères. Parce que je le regarde souvent à la télévision. Voilà.
Oui.
En réalité, nous ne votons pas pour des partis français. Nous votons pour des groupes politiques européens auxquels les partis français se rallient. Mais ce ne sont pas du tout les partis français qui ont, comme on pourrait le comprendre, qui ont des pouvoirs de décision. Ce sont des groupes politiques européens. Alors je vais vous citer par exemple le parti, le PPE auquel se rallient les Républicains, qui est le plus gros parti, le SED, Alliance des Socialistes, auquel se rallient les Socialistes,
oui.
Les deux gros qui font souvent alliance, le troisième qui sont les conservateurs européens auxquels il n'y a pas de député français, alors se rallient debout la France à ce parti. Mélenchon se rallie à GUE, groupe unitaire européenne, les Verts, bon ça va, c'est pas difficile.
C'est important ce que vous dites, Bertrand, sur ces groupes européens, voilà, qui phagocytent ou qui récupèrent en tout cas les représentants français. Bruno Julien va vous répondre. Oui. Vous avez une question derrière?
Non, mais attendez, alors moi je au niveau du vote, d'habitude je vote républicain, mais là je crois que je vais voter Debout la France, parce que on n'a pas de représentants chez les conservateurs, et c'est Debout la France qui, dans les questions qui ont été posées par les lobbies européens, répond le plus clairement pour la défense de la famille.
Alors, je vous reprends tout de suite après la pause, Bertrand, sur cet argument avec Bruno Jeudy. À tout de suite sur Europe 1, on doit faire une petite pause.
Élections européennes, savez-vous pour qui vous irez voter? Pour qui et pourquoi, il faut dire aussi.
Oui,
Wendy Bouchard.
Avec 33 listes représentées, le vote le 26 mai, encore 40% d'électeurs indécis et nos amis au standard qui nous appellent très très nombreux. Bertrand vous sollicite dans le commentaire, Bruno Jeudy pour le service politique de Paris Match et Bernard Sananès pour l'Institut de sondage ELAB. Vous nous disiez, Bertrand, faire le choix de Dupont-Aignan, voilà, de cette liste-là, pour envoyer peut-être un député dans le groupe conservateur, car Bertrand faisait bien le distinguo entre ce qu'on élit et ensuite les groupes européens au Parlement qui vont récupérer ces personnalités, Bruno Jeudy.
Alors, il nous a dit deux choses très importantes, le dernier auditeur, justement, c'est que c'est vrai qu'on voit cette européenne comme une élection nationale, or les députés européens qui seront élus en France, ils vont aller siéger dans des groupes au Parlement européen. Et c'est très important, les groupes au Parlement européen, puisque c'est ceux qui, demain, feront la majorité, feront les textes, trouveront les compromis. Aujourd'hui, quand on regarde, parce qu'il y a des sondages et des projections qui sont faites sur l'ensemble des 27 pays qui vont voter, sur la question de la Grande-Bretagne, aujourd'hui, c'est la droite européenne, c'est un parti qui s'appelle le PPE, qui domine au niveau européen. D'assez loin, dans les projections, on serait de l'ordre de 180 siège. Et la surprise, c'est que la deuxième force politique du Parlement européen, ce qui était le cas aujourd'hui, mais dont on pensait qu'elle s'effondrerait, serait plutôt les sociaux-démocrates, qui, dans les projections, sont aujourd'hui assez hauts. Et grâce notamment aux socialistes espagnols, socialistes belges, voire italiens, où ils tiennent plus le choc qu'en France, où on sait que la liste socialiste, celle dirigée par Raphaël Glucksmann, pour l'instant n'est créditée que de 5-6%
et
sinistrée.
Mais ça veut dire qu'elle peut se refaire en Europe.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau européen, c'est quand même encore un match droite-gauche. Quand en France, nous, on est polarisés sur notre match entre le Rassemblement National, qui au mieux siégera dans un groupe qui aura peut-être autour d'une 80 députés, et les députés de la République En Marche, qui a priori devrait siéger peut-être dans un parti qui s'appelle le Parti libéral, enfin ADLE, et qui serait autour d'une centaine de députés, c'est-à-dire quand même loin du PPE ou des sociaux-démocrates, aujourd'hui, dans la configuration actuelle, qui peut changer évidemment, et les groupes verts, groupes gauche extrême sont beaucoup plus faibles. Quant à notre auditeur qui nous parlait de Nicolas Dupont-Aignan, il siégerait dans un petit groupe. Ce qu'il faut voir, ce qui est important, c'est de savoir où va siéger votre député, la liste pour laquelle vous votez. C'est très important parce qu'ils n'auront de l'importance que s'ils votent dans un groupe assez puissant qui pèsera dans le Parlement européen. Il y a plus de 700.
C'est la prime au plus fort.
Il y a plus de 700 euros députés. Si vous n'êtes pas dans un groupe important, votre député pèse peu.
Avec l'autre question, qui est le poids de la France, des délégations françaises dans ces groupes-là. C'est vrai que c'est très important aussi pour la France de savoir que dans les groupes les plus importants, on a cité le groupe socialiste, le groupe PPE, le groupe ADLE, le groupe de la droite dans laquelle va siéger Marine Le Pen, que ces groupes-là aient une forte présence française. Mais je voudrais revenir sur un autre point. Si on parle aussi de cet éloignement des questions européennes, c'est aussi un peu dû à ces questions. C'est que quand vous votez en France pour une élection présidentielle, même si vous êtes déçu après par la déception par rapport aux promesses électorales, vous avez eu une visibilité sur un programme. Là, sur les questions européennes, vous avez cette double campagne. La campagne de partis français, de mouvements français, et puis la campagne de groupes européens. Mais franchement, autour de nos tables, qui est capable de dire pourquoi militent ces grands groupes européens? Il n'y a pas une campagne européenne. Donc ça donne le sentiment que ce vote, finalement, n'est pas clairement identifié, clairement attaché à un programme. Ça n'avait pas non plus marché dans la personnalisation. Il y a 5 ans, les deux grands partis avaient essayé de mettre en avant partout en Europe une tête de liste potentielle pour être le président de la Commission européenne. Ça n'avait pas marché. Donc c'est sûr que ça rend très difficile de se rattacher à la question européenne et de se dire à quoi véritablement mon vote va servir.
Je salue l'arrivée en studio d'Olivier Duhamel, le politologue éditorialiste à Europe 1. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour Wendy.
Merci de nous rejoindre. Je voulais que vous soyez là aussi autour de la table pour commenter à 3 semaines maintenant des élections, l'indécision d'un certain nombre d'auditeurs. Ils sont très très nombreux à nous appeler et la consultation que nous avons faite sur Facebook confirme les sondages et les enquêtes notamment de Bernard Sananès, 40% d'indécis plus ou moins. Et par exemple Suzanne qui nous écrit à l'instant « J'hésite entre le vote utile, La République en marche, et le vote de mon cœur, Les Verts. Mais j'ai trop peur que Marine Le Pen gagne, alors je pense qu'au dernier moment, je vais voter La République en marche. » Il y a ces impulsions quasiment de dernière minute dans cette dernière ligne droite, Olivier Duhamel, qui sont intéressantes.
Oui, moi je suis arrivé dans le studio il y a 4 minutes, c'est une très très bonne nouvelle, parce que j'ai entendu parler d'Europe, c'est la première fois depuis quelques semaines que j'entends parler d'Europe à propos de ces élections. Parce que c'est quand même extraordinairement bizarre, sur quoi se polarise. Si on prenait par exemple tout ce qui a eu trait à l'élection européenne, tout ce qui a pu se dire dans toutes sortes de médias, et on mettrait d'un côté le temps consacré à qui arrive premier, qui arrive second, En Marche Rassemblement National, ou de quoi s'agit-il, quelles sont les grandes questions européennes, qu'est-ce qui peut changer. On serait dans un rapport de genre 90-10, quoi, ce qui est complètement insensé. Et c'est presque miraculeux, du coup, que les gens aillent voter autant. Alors, vous allez dire, c'est vrai, c'est pas énorme s'il y a 40% des gens qui vont voter. Mais quand même, un truc auquel on comprend rien, d'une complexité inouïe, qui n'est pas incarnée, et dans lequel, chez nous, la campagne ne porte pas sur l'objet, c'est-à-dire sur l'Europe, qu'il y a encore 40% des gens qui aillent voter, c'est formidable.
Mais qu'est-ce qu'on fait? Vous avez été eurodéputé, mon cher Olivier, et on a fait une circonscription unique avec des têtes de liste qu'on a essayé de mettre un petit peu comme ça en lumière. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus lisible, si ce n'est peut-être de parler des programmes et du fond plutôt?
Voilà, c'est de parler du fond et du fond et de la politique au sens traditionnel du terme au Parlement européen. Ce qu'on a dit tout à l'heure est extrêmement important. Il faut savoir dans quel groupe les différentes personnes vont siéger et quel poids ils auront dans ces groupes. Parce que j'entends bien ce qui a été dit tout à l'heure, Bruno, j'entends bien sur la remontée des socialistes des deux grands partis. Mais enfin, pour la première fois, moi je vous prends à Paris si vous voulez, pour la première fois dans l'histoire des élections européennes, les deux grands partis européens, le conservateur et le social-démocrate, n'auront pas la majorité. Or, ça fait depuis 1979 qu'ils gouvernent ensemble en grande coalition, l'Europe.
Donc oui, là, ils n'y sont pas. Dans les projections, ils n'y sont pas pour
donc,
l'instant.
C'est un changement considérable. Considérable. Et du coup, si vous êtes pro-européen, par exemple, si vous êtes pro-européen, il faut voter ou bien vert, ou bien La République en marche. Parce que vous allez voter pour, dans les deux cas, des élus qui seront dans un groupe extrêmement important. Puisque pour fabriquer les nouvelles majorités, ils seront obligés soit de faire un accord à 3 durable, le PPE, le PSE et les libéraux-démocrates et les Verts, soit s'ils ne font pas un accord durable à 3, texte par texte, de trouver des alliés. Donc vous allez peser. Donc si vous êtes pro-européen et si vous voulez peser sur l'avenir de l'Europe, Eh ben, arrêtez de dire ah, mais est-ce que c'est bon pour Macron, mauvais pour Macron,
non,
est-ce que c'est bien,
ça,
pas
Olivier.
Bien ce qu'il fait,
c'est
arrêtez
juste,
de vous dire ça.
C'est juste que
c'est pas le sujet.
Comment voulez-vous que ça soit lisible pour les Français? On leur présente 33 listes et vous nous dites finalement qu'il y en a 4 ou 5 qui feront
non,
sens.
Non, mais c'est intéressant de dire, Olivier Duhamel, quand même qu'au niveau européen, il y a encore un combat droite-gauche, alors qu'en France, on a l'impression qu'il
oui.
a disparu. C'est,
jamais
c'est...
je n'aurais osé dire que ce que vous avez dit n'a pas d'intérêt. Pas du tout, mon genre, surtout avec vous. Et c'est juste. Mais l'enjeu politique réel de mon vote,
c'est la majorité.
Si je veux que mon vote pèse, si je suis anti-européen, bah j'ai qu'à voter pour qu'il y ait un peu plus d'eurosceptiques. Et puis là, j'ai le choix, parce que
là,
le nombre de
beaucoup,
listes.
Ouais.
Et là, vous y allez.
Il
n'y
a jamais
eu
autant d'ailleurs de listes eurosceptiques.
Voilà. Donc là, vous choisissez entre le plus dur, le plus pitral, le plus ce que vous voulez, ça n'a aucune importance. Mais si vous êtes vraiment pro-européen, et il faut en tout cas choisir entre ces deux-là, et éventuellement, d'ailleurs, éventuellement en troisième, les Républicains, parce que le grand mérite de la liste des Républicains, très franchement, c'est qu'eux aussi tiennent un discours qui n'est pas que national. Moi, j'ai entendu hier Bellamy sur LCI, je crois, c'était, où on lui demandait est-ce que c'est un référendum anti-Macron. Il disait, mais jamais de la vie, c'est un vote sur des choix européens. Ouais. Il serait temps qu'on comprenne que ce sont des enjeux de l'Europe, que ce sont ceux de demain et que le vote compte.
Oui, mais on aura le programme de La République En Marche le 9 mai seulement. Alors, c'est une date historique, mais enfin, c'est un peu tard.
Bon, juste un point qui rend cette élection très, très difficile, cette campagne très difficile, toujours à appréhender. On l'oublie, je trouve, par rapport aux campagnes nationales. La mécanique électorale, elle se fait toujours d'abord sur le jugement, sur le bilan de ceux qui sont au pouvoir, et ensuite sur le programme. Là, vous êtes dans l'incapacité, objectivement, même si vous suivez les questions européennes tous les jours pendant 5 ans, oui. de juger le bilan, parce que les actions sont peu valorisées, et par ailleurs que les actions sont attribuées en plus, alors ça, c'est vrai qu'en France on a plus de mal, à une coalition de partis que sinon dans les vies politiques nationales, tout ou presque divise. Et donc vous n'êtes pas capable de dire pendant ces 5 ans, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché. Et donc vous portez un jugement globalement critique. Et par ailleurs, Olivier Duhamel pointait gentiment la responsabilité des médias sur la place d'Europe dans la campagne, mais que fait également le Parlement européen, les instances européennes, pour valoriser leur bilan? Il y a eu des directives extrêmement importantes prises au niveau européen, que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur la consommation. Est-ce que vous voyez cet impact dans le débat?
On voyait hier, je faisais une émission avec Christophe Marie et Pascal Durand sur l'Europe des animaux. On voyait par exemple l'impact aussi des normes minimales sur la condition animale. Donc thématique par thématique, on peut faire largement le tour des questions, mais encore faut-il le faire. Merci d'être avec nous messieurs. Juste après la pause, Michel et Daniel veulent témoigner au 39-21.
On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro pour envoyer des lettres recommandées en ligne avec la même valeur juridique qu'un recommandé classique. Le tour de la question sur les élections européennes et ce qu'elles révèlent du lien que les Français entretiennent avec les partis politiques et leurs représentants. Wendy Bouchard.
Vous savez pour qui vous allez voter peut-être, n'hésitez pas à nous le dire. Je ne vous demande pas forcément pour quel parti, mais en tout cas avec quelle conviction, pour quel programme dans l'horizon et en ligne de mire pour vous. On commente tout cela avec Olivier Duhamel, politologue, éditorialiste à Europe 1 et présentateur du podcast Génial. Nos présidents dans la tourmente que je vous recommande à retrouver en ligne sur europe1.fr. Bruno Jeudy pour Paris Match, Bernard Sananès pour l'Institut de sondage ELAB dont il est président et Daniel et Michel avec nous au 39-21. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Vous allez voter, cher Daniel, le 26 mai prochain, vous aussi?
Alors écoutez, moi, d'abord je vous salue, puis je salue vos invités qui sont des personnes de grande qualité, je trouve.
Ah ben je vous remercie. Voilà, vous avez trouvé les meilleurs ce matin.
Oui, oui, oui. Et c'est pour ça que j'ai appelé.
Merci beaucoup. Alors on vous écoute, Daniel.
Oui, moi je vais aller voter. J'ai toujours voté. Je trouve que c'est un droit. C'est encore plus important pour les femmes parce que ça fait pas si longtemps que ça. Depuis, les femmes ont voté pour la première fois en 1945. Mmh. Bon, je ferme la parenthèse, donc je vais aller voter. Mais je sais pour qui je ne vais pas voter, mais je ne sais pas encore pour qui je vais voter.
Oui, bah vous avez 3 semaines pour affiner votre choix. Est-ce que la lecture de ce matin vous a donné déjà un peu des indices, Daniel?
Oui, oui, bien sûr. Alors moi, je sais que je ne voterai pas pour le Rassemblement National, ça jamais de la vie. Mmh. Je ne voterai pas non plus pour la France insoumise. Je ne voterai pas pour les Républicains. Et oh, il reste beaucoup de listes, hein, mais bon, j'élimine toutes les...
Il en reste beaucoup.
Dupont-Aignan et compagnie.
Mais,
et compagnie, hein,
oui, bon, il en reste beaucoup, mais pas tant si on parle vote utile, comme le signifiait tout à l'heure Olivier Duhamel. Par exemple, nous avons Marie, Daniel, vous allez me dire ce que vous en pensez, qui nous écrit « Je vais voter pour Raphaël Glucksmann, car je suis au PS, j'aime ses idées. Il ira siéger avec le groupe socialiste, il faut essayer de faire bloc. » On revient aux fameuses alliances qui sont nécessaires aussi au Parlement pour trouver l'équilibre aussi des des voix, Olivier Duhamel.
Oui, ça vous laisse juste que je vous raconte. Parce que nous aussi, on parle politique, pas seulement dans le studio, hein, avec ses copains et tout ça. Je me suis engueulé gentiment, avec une amie qui me dit qu'il faut absolument voter pour la liste de Raphaël Glucksmann, parce qu'il faut sauver le Parti Socialiste. Et moi, je lui ai répondu, c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas voter pour cette liste, parce que comme le Parti Socialiste ne comprend rien, il leur faut un vrai désastre pour qu'enfin ils se relèvent. Donc, quand on décide d'oublier l'Europe et de fabriquer son vote pour des raisons politiciennes, c'est plus compliqué qu'on croit, parce que vous pouvez quasiment tout retourner. Donc, savoir si c'est d'abord Génération ou d'abord la liste Place Publique qui va arriver devant l'autre, savoir si c'est la France Insoumise ou les Écolos, tout ça, c'est des petits trucs du sérail dont les Français, en vérité, se foutent, et ils ont raison, se fichent, et ils ont raison. Donc, déjà, pas savoir pour qui on veut voter, Daniel, c'est pas mal. Hein. C'est le chemin vers le choix.
Oui, oui, non, mais c'est sûr. Mais je réfléchis beaucoup et puis j'écoute beaucoup, je regarde beaucoup et je suis un peu d'accord avec vous. Bon, moi j'ai souvent voté socialiste, mais là je suis un peu chiffonnée quand même. Hein, c'est bon. Ceci dit, ce que je voudrais aussi, c'est que ce soit un vote pour l'Europe et voilà. Que ça ne soit pas un vote pour ou contre Emmanuel Macron. Et j'ai bien peur que c'est ce qui va se passer. Que les gens vont dire on vote pour Emmanuel Macron ou contre Emmanuel Macron.
Bon, en tout cas, vous ne le ferez pas vous et c'est important. Voilà, si vous pouvez suivre aussi Daniel dans ses convictions.
Il y a souvent, effectivement, dans ces élections européennes, la tentation du vote sanction. Il faut rappeler qu'il y a une exception, ce n'est pas arrivé, c'est en 2009, quand Nicolas Sarkozy était au pouvoir. On était juste après la crise de 2008 oui. Et le parti au pouvoir est arrivé en tête. Mais sinon, c'est vrai que la tentation du vote sanction existe. Le Parti Socialiste, en 2014, a fait, il faut le rappeler, est sorti très abîmé de cette campagne européenne. Il a fait 14% des voix. Alors, sans faire trop de politique aérienne, interne, il y aura quand même un enseignement à suivre sur ce qui va se passer à gauche, non pas seulement de savoir effectivement qui va arriver à 9,5, à 10 ou plus, mais c'est vrai que l'élection présidentielle avait rebattu les cartes en installant la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon comme le leader de cette alternative à gauche, puisque Jean-Luc Mélenchon faisait plus de 3 fois plus, près de 4 fois plus le score du Parti Socialiste. On voit bien aujourd'hui que cet écart entre les différentes listes de l'espace situé à gauche, si on introduit les écologistes, est extrêmement plus ramassé. Donc, cela dira quand même des choses dans la perspective des autres échéances, même les municipales, sur ces équilibres qui avaient été fortement bousculés au moment de la présidentielle.
Non. Il faut oublier ces trucs-là. Mais non. Écoutez, moi, je dis que les élections européennes, à une ou deux exceptions près, n'ont eu aucune conséquence dans la politique nationale. Vous voyez, je vais loin.
On a un peu plombé Michel Rocard quand même.
1994, quand je dis à une ou deux exceptions après, je vous sers sur plateau l'exception de Michel Rocard, qui en effet a perdu toute chance pour la présidentielle. Voilà, d'accord. C'est donc sur 2, 4, 6, 8 élections présidentielles européennes. Une exception. Donc, quand on n'arrête pas de se polariser sur ça, et alors c'est très important pour l'avenir de la gauche, si ceci, si cela, et alors c'est très important pour la suite du quinquennat, si Macron arrive en tête ou pas. C'est pas 2014. Vrai en plus.
Ouais. Il s'est quand même passé quelque chose à gauche en 2017. Ce sera intéressant de mesurer si ça se reproduit ou pas. Je ne dis pas que ça va tirer un enseignement déterminant, mais en tout cas, ce sera un enseignement politique.
Ce qui est sûr, messieurs, c'est qu'on peut réinterroger le sens des partis, peut-être à l'aune aussi de cette élection européenne.
Personne n'a parlé Europe pendant 10 minutes, c'est un maximum.
C'est vrai que dans l'offre politique d'aujourd'hui, il y a quand même plusieurs partis qui sortent le drapeau européen. Je trouve d'ailleurs que l'un des mérites de Raphaël Glucksmann, qui pour l'instant est un peu à la peine, c'est d'être sur une offre très, très européenne, peut-être même plus que la liste de Nathalie Loiseau, et en tous les cas, au moins égale à Yannick Jadot. Donc, on voit que pour ceux qui sont très européens, il y a quand même une offre politique, même si tout ça rassemblé. Bon, c'est vrai, quand on regarde les 33 listes, il y a beaucoup plus. Il n'y a jamais eu autant de listes souverainistes ou de listes anti-européennes sur cette édition des européennes par rapport aux fois précédentes.
En une petite pause, après, on fera un petit point sur le glissement de participation, une abstention attendue aux alentours de 60%, hélas. Mais c'est à peu près conforme aux dernières échéances. Michel encore avec nous au 39-21 et Frédéric si on a le temps, à tout de suite sur Europe 1. Le tour de la question, les dernières minutes sur les élections européennes. Wendy Bouchard. avec nos invités, Bernard Sananès de l'Institut de sondage et là, Bruno Jeudy, chef du service politique à Paris Match, Olivier Duhamel, politologue et éditorialiste à Europe 1. Un tout petit point sur la participation, Olivier, parce que je sais que vous avez toujours des chiffres extrêmement précis. On l'évoquait d'entrée de jeu, autour de 40% aujourd'hui. Finalement, le scrutin qui a vraiment créé la nouveauté, c'est 79, le premier scrutin européen au suffrage universel direct. Depuis lors, ça n'a cessé de s'étioler en participation.
Alors, ça n'a cessé de s'étioler, c'est vrai. C'est paradoxal, parce que au fil des années, l'Europe a pris de plus en plus d'importance.
Oui,
le Parlement européen a eu de plus en plus de pouvoir. Et on dirait que plus il a de pouvoir, moins on vote pour lui, c'est un peu curieux. Maintenant, il faut dire, d'une part, c'est un phénomène général, la recul de la participation aux élections, beaucoup plus important encore aux élections du Parlement français, par exemple,
oui,
du Parlement européen,
hein,
donc beaucoup plus important, donc c'est un phénomène général. La deuxième chose, c'est qu'avant les élections européennes, elles étaient très fortement incarnées. À l'élection de 79, vous aviez comme candidat Simone Veil, Jacques Chirac, François Mitterrand, Georges Marchais, donc c'était les grands éléphants, les grandes figures politiques qui étaient là. En 84, vous aviez Jospin, vous aviez encore Simone Veil. En 89, vous aviez Fabius, vous aviez Giscard, donc vous aviez vraiment des gens qui comptaient. Et puis maintenant, bah, ils sont très sympas, mais vous avez Yann Machin.
Pourquoi on fait plus ce choix-là,
Nathalie Truchot. En 99, qui est une des dernières grandes élections au scrutin national, il y a quand même Nicolas Sarkozy, il y a Pasqua, il y a François Hollande, Jean-Marie Le Pen, enfin voilà,
c'est aussi la faute de l'investissement des partis, cette histoire, Bernard Sananès.
Oui, il y a eu quand même une jurisprudence Rocard. C'est vrai que beaucoup de leaders de partis politiques ont eu la peur de chuter sur cette élection dans une conquête sans faire de politique nationale pour ne pas agacer Olivier Duhamel. Pour ne pas être victime de la campagne européenne, mais aussi ce désintérêt. Et c'est vrai que cette fragmentation des offres électorales fait que de toute façon, vous risquez de faire moins à une élection européenne qu'à une élection nationale où votre parti concourt, donc vous apparaîtriez comme affaibli. Alors c'est dommage, c'est regrettable. Finalement, le changement, le passage à nouveau à la campagne nationale, dont on pouvait penser qu'elle allait réinvestir des personnalités de premier plan sans être désobligeant, parce que finalement, ça permet aussi une forme de renouvellement d'avoir ces nouvelles têtes de liste. Pour l'instant, on observe que ça ne donne pas beaucoup plus de puissance à la campagne.
Et si
il reste encore 3 semaines.
Juste un mot, il y a encore une autre raison qui est plutôt salutaire, c'est qu'aujourd'hui, on n'accepte plus ce qu'on acceptait autrefois, que quelqu'un se fasse élire et 3 mois après qu'il laisse tomber.
Voire même de l'ombre.
Et ça, aujourd'hui, ça passe plus parce qu'on a des exigences déontologiques plus élevées.
Siéger, voilà. Et c'est pour ça que les têtes de liste sont plutôt des nouveaux, des gens qui s'engagent, qui n'ont pas de mandat d'ailleurs pour beaucoup, et qui s'engagent à siéger la totalité du mandat.
C'est plutôt bien.
Encore heureux. Frédéric nous écrit, moi ça y est, j'ai fait mon choix, je vais voter à chaque fois. Ces derniers temps, j'ai voté blanc, mais il y a un parti qui prend en compte mon quotidien, le parti animaliste. Et Michel, pour terminer, peut-être en quelques secondes, peut nous dire bonjour Michel, pour qui vous allez voter, si vous avez envie de voter. Michel, bonjour.
Bien sûr, je suis fermement décidé parce qu'européen, et il faut une politique de gauche, et ce sont les sociodémocrates au niveau européen qui, depuis la création de l'Europe, défendent ses orientations dans le domaine environnemental, social, etc. Et je suis étonné que certains de vos auditeurs ignorent l'actif du groupe social-démocrate.
Même si on a montré qu'elle était encore cette force, la deuxième du Parlement européen. Merci Michel. Un autre Michel nous écrit, je pense qu'il est indispensable de voter, peu importe le parti, même s'il faut voter pour un parti qui pourra peser sur l'Europe. Et on revient à votre trio de tête, Olivier Duhamel. On rappelle ces partis qui, pour vous, européens convaincus, font sens, Olivier ?
Non, oui, j'ai dit si vous êtes profondément européen, c'est La République En Marche, ou les Verts, ou à la rigueur les Républicains, puisque la campagne de Bellamy est une campagne européenne. Maintenant, on peut aussi voter pour exprimer un enjeu qui vous tient à cœur. Après tout, si on est messieurs, je sais bien, parti animaliste, ça fait la 7e fois que vous nous parlez des animalistes, même des Bouchards.
Je ne voterai pas pour eux, mais je le dis, ça vous sont très, pour... très, très réactifs.
Vous votez pour qui vous voulez. Mais...
Il y a toujours eu cette tradition dans les élections européennes de lobby, de causes particulières qui profitent de l'élection européenne pour s'offrir en quelque sorte une page de publicité pour leur cause.
Mais oui.
Il y a y a toujours eu ça, les partis fédéralistes naguère. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de.
Et là, cette fois-ci, on a du mal à en comprendre les enjeux d'ailleurs, parce qu'ils ne vont pas récupérer leur argent et ils n'en verront probablement pas de députés.
Par ailleurs, sur ces 33 listes, quelques-unes, peut-être pas loin d'une dizaine, ne mettront pas les bulletins dans les isoloirs, parce que vous savez qu'il n'y a pas cette vérification. Il y a des listes qui demanderont à leurs électeurs d'imprimer leur bulletin. On n'est pas sûr que les 33.
On n'en a pas dit un mot, mais il y a trois listes gilets jaunes dont on sait qu'il y en a au moins une qui aura probablement pas d'affiche ni bulletin.
Il y a peu de barrières à l'entrée pour se présenter. À une élection présidentielle, vous avez la question, même si ça a été modifié, des parrainages, etc. Là, la barrière à l'entrée est très faible.
En tout cas, Yvette vous remercie. Elle vient de découvrir, grâce à vous, l'importance des groupes européens. C'est affolant de voir que les médias en parlent si peu. Merci d'avoir fait le point aussi sur ce sujet. Cher Bruno Jeudy de Paris Match, Bernard Sananès pour l'Institut de sondage Elab et Olivier Duhamel, que vous retrouvez aussi dans le podcast Les Podcasts sur Europe1.fr, la série Nos Présidents dans la tourmente. Merci à vous, chers amis, et à tout de suite avec une grande navigatrice, une grande défenseuse de l'environnement, défenseur, comme vous voulez, Isabelle Autissier. À tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.